Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 9 août 2016. Au sommaire ce soir.
Au Mali, 5 soldats portés disparus après une présumée attaque djihadiste dans le centre du pays.
Au Tchad, le chef de file de l'opposition Salé Kebzabo, convoqué ce mardi à la police judiciaire.
Et toujours au Tchad, le président Idriss Déby Itno reconduit Paimi Padake au poste de Premier ministre.
En RDC, l'ONG Voix des Sans-Voix appelle à la publication de la date des élections.
Politique américaine. Les dernières nouvelles sur la campagne de Donald Trump et Hillary Clinton.
Ne ratez pas le journal des Jeux Olympiques, juste après le journal.
Insécurité dans la région de Mopti au Mali, où les troupes gouvernementales ont été victimes d'une attaque terroriste dans le centre de Ténékou. Notre correspondant Mamadou Bokoum nous fait le point.
Les violences continuent dans la région de Mopti. Un convoi des forces armées du Mali est tombé dimanche soir dans une embuscade vers Kera, une localité située à 32 km de Ténékou. Le bilan officiel donné par le ministère de la Défense et des anciens combattants est de 5 militaires disparus, un blessé, 4 véhicules emportés et un calciné. Des témoins qu'on a joints sur place nous confirment avoir repêché aujourd'hui les corps de 2 militaires maliens dans l'eau. D'autres estiment que l'attaque est perpétrée par les combattants de peau blanche à bord de dizaines de véhicules lourdement armés. La bataille a continué jusqu'au lundi à la matinée. La population du cercle de Ténékou se trouve présentement entre peur et angoisse. Elle demande aux autorités de renforcer l'effectif des militaires pour une sécurité dans cette zone. Depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, l'escalade de la violence ne fait que monter dans le delta intérieur du Niger. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Inondation au Mali, 14 personnes sont mortes en moins de 2 mois suite aux fortes pluies dans le district de Bamako, à Sikasso, dans la région de Koulikoro et à Ségou. Les autorités font état d'importants dégâts matériels.
Le Premier ministre tchadien Paimi Padake Albert a été reconduit dans ses fonctions après l'investiture pour un 5e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno, selon un décret présidentiel publié lundi soir. D'autre part, le leader de l'opposition Salé Kebzabo a été entendu ce mardi comme témoin par la police dans le cadre d'une affaire de disparition présumée de militaires. Nathalie Barge nous en dit plus.
À la demande du procureur général, Salé Kebzabo a été entendu comme témoin sur l'affaire des présumés militaires disparus au lendemain de l'élection présidentielle du 10 avril, a déclaré une source judiciaire citée par l'AFP, précisant que l'audition a duré 2 heures. Fin avril, l'opposition avait dénoncé la disparition de militaires qui auraient refusé de voter pour le président Déby et dont certains auraient été arrêtés et emprisonnés. Une enquête sur la disparition d'au moins 20 militaires a été ouverte mi-mai par le parquet de N'Djamena après que la France et des ONG eurent demandé aux autorités de faire toute la lumière sur cette affaire. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a autorisé la levée de l'immunité parlementaire de Salé Kebzabo et de Galine Gotegata, tous deux députés d'opposition, à l'origine des premières accusations et candidats à la dernière présidentielle, afin qu'ils puissent être entendus par la justice.
République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont refusé de renouveler le visa d'Ida Sawyer, chercheuse pour Human Rights Watch, organisation américaine de défense des droits de l'homme. Nous ne nous justifierons pas, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, expliquant que certains gouvernements ne se justifient jamais lorsqu'ils refusent d'accorder un visa à un Congolais.
Et violence dans le sud-est du Nigeria. Des hommes armés ont été tués 3 soldats hier dans le delta du Niger, où les installations pétrolières font régulièrement l'objet d'attaques depuis le début de l'année.
Le Nigeria va relancer la guerre contre l'indiscipline, prévient le gouvernement. Cette politique avait été initiée dans les années 80 par le président Muhammadu Buhari lors de son premier passage à la tête de l'État. À cette époque, on pouvait apercevoir les soldats fouets à la main, remettre de l'ordre dans les queues aux arrêts de bus, des fonctionnaires sanctionnés pour être arrivés au travail en retard ou encore des marchands punis pour avoir vendu des biens au-dessus des prix du marché.
Les plus importants groupes rebelles soudanais annoncent avoir signé une feuille de route sous l'égide de l'Union africaine. Elle vise à mettre fin à des années de conflits dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Jacques Aristide.
Le parti du Congrès national du président Omar el-Béchir a salué la signature de la feuille de route par les rebelles. Pour sa part, l'appel du Soudan, une alliance regroupant plusieurs groupes rebelles et des partis d'opposition, est d'avis que la priorité est d'arrêter les guerres et de fournir de l'aide humanitaire aux gens affectés par les combats. En fait, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacés ces dernières années dans ces régions où des groupes ethniques minoritaires se sont soulevés contre le régime de Béchir, dominé par les Arabes. En mars dernier, les pourparlers à Addis Abeba n'avaient rien donné, mais hier, toujours dans la capitale éthiopienne, le gouvernement soudanais leur a fourni des assurances sur le fait que les points de désaccord qu'ils avaient alors mis de l'avant seraient discutés. La feuille de route devrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu permanent.
En Centrafrique, deux cas suspects de grippe et de diarrhée aiguë avec déshydratation ayant entraîné la mort d'environ 18 personnes se sont déclarés dans la région de Niem, près de Bouar, dans l'ouest du pays, et de Ndjoukou, dans le sud. Écoutons le docteur Richard Fotsing, chargé des programmes à l'OMS, joint par Félix Yepassi Zembro.
Pour ce qui concerne les cas suspects de grippe, les prélèvements vont parvenir au niveau de l'Institut Pasteur de Bangui, très probablement jeudi prochain. Et on pourra avoir les résultats avant la fin de la semaine.
Oui, mais en attendant, docteur, des mesures ont été prises pour protéger la population.
Tout à fait. Nous avons pris plusieurs mesures, notamment on a doté les formations sanitaires qui sont dans ces zones-là en médicaments pour pouvoir assurer la prise en charge des cas. On a fait une investigation épidémiologique pour pouvoir rentrer à la disposition de toutes les informations temporelles, spatiales sur les différents cas. Les messages radio sont passés régulièrement pour sensibiliser la population. Il y a eu des messages qui ont été diffusés dans les lieux de culte et on a également tenu plusieurs réunions avec les leaders d'opinion et les autorités politico-administratives pour leur expliquer de quoi il pourrait être question et quelles sont les différentes mesures que les populations devraient prendre pour l'instant pour s'en protéger.
Docteur Richard Fotsing de l'OMS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Vladimir Poutine a souligné aujourd'hui la volonté russo-turque de rétablir le dialogue et les relations bilatérales en accueillant à Saint-Pétersbourg son homologue turc Recep Tayyip Erdogan après des mois de crise diplomatique entre leurs deux pays. Le point avec Nani Talani.
Il s'agit de la première visite à l'étranger du chef de l'État turc depuis le putsch manqué du 15 juillet. Pour son homologue russe, Vladimir Poutine, cette visite montre une volonté commune de rétablir le dialogue et les relations dans l'intérêt des peuples russes et turcs. Erdogan, qui avait annoncé se rendre en Russie pour une nouvelle étape, a souligné de son côté que les rapports entre Moscou et Ankara entraient dans une phase tout à fait différente. Il a estimé que la solidarité entre les deux pays allait contribuer au règlement des problèmes dans la région. Si le chef de l'État turc insiste toujours sur le départ du pouvoir du président syrien Bachar al-Assad, idée à laquelle Moscou s'oppose fermement, il a reconnu dans un entretien avec des médias publics russes que la Russie est un acteur clé très important pour l'instauration de la paix en Syrie, soulignant que ce problème doit être réglé avec des mesures prises en commun par la Russie et la Turquie.
À Alep, en Syrie, 1,5 million d'habitants sont privés d'eau courante et d'électricité. L'ONU tire la sonnette d'alarme et réclame une pause dans les combats pour faciliter la réparation des systèmes d'approvisionnement et la distribution de l'aide humanitaire. Les affrontements entre rebelles et forces gouvernementales ont durement affecté les communautés à l'est comme à l'ouest. Beaucoup de civils ont été tués ou blessés. Un porte-parole de l'UNICEF fait état d'une situation catastrophique menaçant les enfants et les familles dans la deuxième ville de Syrie.
Les talibans ont déclenché une vaste offensive dans le sud de l'Afghanistan et menacent la capitale du Helmand, la province du Pavot, vers laquelle convergent des milliers de personnes ayant fui les combats.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Morgane.
Nouvelle médaille africaine la nuit dernière, c'est encore de la natation.
Et c'est encore l'Afrique du Sud, cette fois-ci c'est Tchad Loklo. Cette course a été la scène d'une tactique assez particulière de la part du Sud-Africain. Tchad Loklo est parti comme une fusée, bouclant le premier 50 mètres avec 84 centièmes d'avance sur les bases du record du monde. Mais il a rapidement faibli et laissé passer le Chinois Sun Yang dans la dernière longueur, ne sauvant la médaille d'argent que pour 3 centièmes de seconde face à l'Américain Conor Dwyer, finalement 3e.
Une journée difficile pour le continent africain hier à Rio.
On commence par les tatamis où la Sénégalaise Hortense Diédiou a été sortie dès son premier combat par la numéro 3 de la catégorie, la néerlandaise San Verhagen. A noter que dans cette catégorie des moins de 57 kilos, la brésilienne Silva a remporté l'épreuve en larmes puisqu'elle offre au pays organisateur sa première médaille d'or de ces JO. Avion à Kosiwa Claire du Togo, classée 4e et dernière du 2e repêchage avec un temps de 9 minutes 4 secondes. Handball, la belle victoire des Angolaises face au Monténégro, 27-25. Les Sénégalaises sévèrement battues dans le tournoi de basket, cette fois par la Chine, 101-64. Compte rendu de ce match avec l'envoyé spécial de VOA à Rio, Alvaro Andrade.
Les Sénégalais ne sont pas allés bien dans le jeu. Et aux 6 minutes, déjà perdu 11-0. Les Chinois ont reçu le jeu tandis que les Lyonnais ne pouvaient pas arrêter les adversaires. L'entraîneur Mamadou Moustapha Gaye a essayé de déplacer l'équipe et Assou Traoré a réussi à faire 16 points tout au long du jeu, mais était insuffisante contre la supériorité des Chinois. La dernière étape a été dévastateur pour les Lyonnais. La Chinoise a réussi une avance de 37 points. Sénégal joue le mercredi contre le Canada, qui est la deuxième dans le groupe B. Rio de Janeiro, VOA Afrique, Alvaro Andrade.
L'exploit ce mardi en ping-pong.
Le pongiste nigérian Kwabri Aruna est devenu le premier Africain de l'histoire à atteindre les quarts de finale en simple aux Jeux Olympiques avec un rendez-vous pour atteindre le dernier carré contre le numéro 1 mondial Malong dans l'après-midi. En 8e de finale, Aruna, 40e joueur mondial, a sorti l'Allemand Timo Boll, ancien numéro 1 mondial.
À suivre ce mardi.
L'entrée en compétition sur 100 mètres nage libre de l'Ivoirien Thibaut Amani Dano. Le temps pas terrible, 52 secondes et 78 centièmes. Et l'Éthiopien Robel Kibos apté en 1 minute 04, très loin derrière les favoris. Sur les tatamis de Rio, élimination du Gabonais Paul Kibikai chez les moins de 80 kilos, battu par le Japonais Takanori Nagase. En aviron, le Tunisien Mohamed Tayeb finit 2e de sa demi-finale. Placé dans un groupe relevé, la Tunisie affrontera tout à l'heure le Danemark, c'est du handball. En boxe, monté sur le ring tout à l'heure du Marocain Mohamed Arjaoui en 91 kilos. Déjà éliminé en revanche en moins de 75 kilos, le boxeur congolais Mpi Anoel Ngamisenge. En revanche, le Camerounais Dieudonné Wilfried Seinsenge s'est qualifié pour les 16e de finale de la catégorie. À suivre tout à l'heure, les sports par équipe. L'équipe kényane de rugby à 7 affrontera la Grande-Bretagne. En football, les Sud-Africaines joueront face au Brésil et les Zimbabwéennes contre l'Australie. Pour leur tableau des médailles, les États-Unis toujours en tête grâce à la natation devant la Chine et l'Australie.
Et rendez-vous vendredi pour l'haltérophilie.
Oui, le Camerounais Petit David Minkumba, chez les moins de 94 kilos, entrera en compétition samedi. On l'écoute.
C'est ma première participation, donc je suis là pour améliorer d'abord mes performances et améliorer les performances de l'Afrique dans ma catégorie. On a des bons athlètes comme le Nigeria qui est là, la fille qui est là. Il y a le Tunisien qui est là, qui joue dans les 69 kilos. On a des bons athlètes. Il y a l'Égypte aussi qui est là. Et je pense que je suis convaincu que la Turquie va faire des médailles ici aux Jeux Olympiques.
Petit David Minkumba, l'haltérophile camerounais, au micro d'Alvaro Andrade, l'envoyé spécial de VOA à Rio.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lendon.
Les investisseurs internationaux considèrent le secteur de l'énergie renouvelable comme le plus prometteur en Afrique à l'horizon 2020. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès de 55 institutions financières et bancaires et diffusée par Avas Horizon. Pour les investisseurs, 5 pays africains affichent des perspectives économiques intéressantes. Il s'agit de l'Éthiopie, du Nigeria, du Maroc, du Ghana et du Sénégal. Au Cameroun, l'on reparle du scandale des détournements de plus de 50 milliards de francs CFA à la BISEC, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit. 4 employés de cette filiale du groupe français Banque Populaire ainsi que 2 prestataires de services ont été placés en détention provisoire à la prison centrale de Douala hier pour faux, usage de faux et abus de confiance aggravé. Et puis les autorités congolaises honorent leurs dettes. Elles ont procédé à un paiement d'environ 21 millions de dollars pour l'échéance de fin juin 2016 de l'emprunt international de 2007.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin, Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la RDC.
La tenue de l'élection présidentielle avant la fin de l'année est devenue improbable. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme a demandé dans un communiqué à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de publier sans tarder le calendrier électoral dans le strict respect de la constitution congolaise pour lever les équivoques. Mais parallèlement, une coalition d'ONG locales a appelé la mission de l'ONU, la MONUSCO, à retirer son soutien à la CENI. Éric Manirakiza, joint à Kinshasa, le directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, Rostin Manketa.
Beaucoup de gens aujourd'hui reprochent à la CENI de manquer d'impartialité et qu'elle roulerait pour la majorité présidentielle en obéissant aux doigts et à l'œil de celle-ci. Et c'est très dangereux pour un organe technique chargé d'organiser les élections dans un pays. C'est pour cela que la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme demande à la CENI de redorer son image ternie auprès de l'opinion publique en mettant ainsi fin à la réalisation des activités ponctuelles non reprises dans un calendrier électoral global, en privilégiant un chronogramme susceptible de reprendre toutes ses activités, y compris celles qu'elle est en train de réaliser aujourd'hui, notamment dans la province du Nord Ubangi, avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électrices et électeurs. L'absence d'un calendrier électoral global ne rassure pas les Congolaises et Congolais, livrés à de nombreuses spéculations et suspicions quant à la volonté politique réelle d'organiser les élections et favoriser l'alternance politique conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo.
Est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu?
Il est très, très important que le calendrier soit publié. Ça va rassurer les uns les autres. Et ça comme avantage d'influer positivement sur les agendas cachés des politiques. Il ne faut pas que la CENI puisse subordonner la publication du calendrier au consensus politique qui sera issu du dialogue national ou aux ingérences et autres interférences des partis politiques. Il faut qu'elle réaffirme son indépendance en agissant de manière autonome. Nous espérons bien, si la CENI est là pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, elle doit entendre notre appel.
Son soutien à la CENI, quel est votre commentaire?
La position des collègues qui ont demandé à l'ONU de retirer son soutien à la Commission électorale nationale indépendante peut être comprise au regard des incertitudes, au regard de la façon dont la CENI est en train de travailler. Je crois que les collègues qui demandent cela n'ont pas tort.
Voilà, c'était Rostin Manketa à Kinshasa.
Dans Washington Forum ce jeudi, on vous emmène à Rio où se sont ouverts les Jeux Olympiques d'été. Dans un climat sociopolitique tendu, le Brésil relève le défi d'accueillir ses 2 semaines de compétition de haut niveau. Malgré les questions de sécurité, pour l'heure, la fête semble réussie. Mais sur le plan sportif, comment faire fi des scandales de dopage à répétition qui frappent les plus grandes nations sportives? Inédit aussi la participation d'athlètes réfugiés, mais quelle égalité avec les autres sportifs? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Au Burundi, rien ne certifie que le corps sans vie retrouvé ce week-end au centre du pays dans le lit d'une rivière est celui du journaliste Jean Bigirimana. Il a disparu le 22 juillet dernier. Le groupe de presse Iwachu, son employeur, a saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour identification du corps, mais aucune suite favorable n'a été réservée à cette requête. Eric Manirakiza a joint à Anvers, en Belgique, le directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kaburahe.
On ne sait pas à l'heure actuelle si le corps découvert par les journalistes est celui de notre confrère Jean Bigirimana. Seulement, notre collègue a disparu dans cette zone-là, dans la zone de Bugarama, selon toutes les informations en notre possession, et même en possession de la Commission nationale pour les droits de l'homme, qu'il a encore affirmé lors de son point de presse, Jean Bigirimana a disparu à Bugarama. Donc, par déduction, quand on nous a signalé ce corps-là, nous, on est allé vérifier. Sauf que les journalistes n'ont pas pu accéder vraiment au corps parce que il est très loin, dans une zone de ravin. Les journalistes n'avaient ni le matériel et même ni la technicité nécessaire pour identifier un corps qui, selon toute vraisemblance, avait passé beaucoup de temps dans l'eau. Ils ont essayé de faire des photos, des images avec des zooms, mais le corps est suffisamment loin pour être vraiment identifié avec certitude.
Est-ce que le corps est toujours au même endroit, ça fait quand même plusieurs temps.
Je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a encore, dans un ravin, un citoyen qui a été tué et jeté là. Ce citoyen peut être notre journaliste ou quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, je pense que cette personne mérite une sépulture digne.
Quel serait le mobile de la disparition du journaliste Jean Bigirimana? Est-ce qu'il travaillait sur un dossier quelconque sensible?
Non, Jean Bigirimana venait de nous rejoindre. Il était vraiment relativement nouveau dans le groupe de presse Iwachu. Je ne sais pas. On s'interroge. C'est un garçon intègre, travailleur, qui ne parlait pas beaucoup. Moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine parce que c'est un garçon qui suscitait l'admiration par son sérieux et aussi par son amour du travail.
Antoine Kaburahe, joint à Anvers.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Les véhicules des agences de transport Volcano Yahoo en provenance du Burundi ne peuvent plus aller au Rwanda voisin depuis samedi dernier. C'est ce qu'a fait savoir la police burundaise. Les bus de l'agence Jaguar en partance pour l'Ouganda ne dépassent pas la frontière rwandaise. Le reportage de Christophe Kouanziza.
Très tôt dimanche, au marché communément appelé chez Sioni dans la zone de Ngagara au centre-ville de Bujumbura, plusieurs voyageurs en partance vers le Rwanda avec leurs sacs sont obligés de rentrer. Une mesure de la police interdit tout véhicule de transport se diriger vers le Rwanda voisin, selon la police. Ce parent a une fille qui étudie depuis plusieurs années dans une école secondaire à Kigali au Rwanda. Il s'est débrouillé avec un ami pour permettre à sa fille de 15 ans d'intégrer à temps l'internat.
Oui, on a eu des problèmes avec ma fille, on voulait embarquer vers le Rwanda. Et puis la police nous a interdit de partir et nous ont fait sortir du bus. Du coup, j'ai téléphoné à un ami en lui disant le problème que j'ai eu. Puis il m'a dit, moi aussi je vais aller au Rwanda. Et puis il m'a aidé et il a amené ma fille au Rwanda avec sa propre voiture.
Une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre Kigali et Bujumbura vient d'être franchie, même si les ambassadeurs sont toujours accrédités dans les deux capitales. Cet autre voyageur ne comprend pas les différends qui divisent les autorités burundaises de celles du Rwanda, surtout que les deux petits pays sont presque jumeaux avec une langue que les citoyens de pays peuvent comprendre aisément.
On suppose que les Burundais font des voyages vers le Rwanda avec des objectifs. Et cet enfant, il va au Rwanda pour continuer ses études. C'est-à-dire que ses études, ça l'aide. Aussi, les Burundais vont aussi perdre pour ceux qui font des commerces. Comment ils vont faire?
Pourquoi avoir pris cette mesure? Le porte-parole de la police burundaise, Pierre Mourikier.
Ça ressort de la décision du gouvernement de la République du Burundi qui consiste à protéger la population burundaise contre la faim qui pourrait subvenir suite à l'effet climatique de la Nina. Deuxièmement, aussi pour des raisons de sécurité, commerce est maintenant interdit.
Les militaires burundais ne participeront pas cette semaine aux jeux militaires et culturels des pays de la communauté est-africaine qui s'ouvrent ce lundi à Kigali. Bujumbura a demandé plus de temps de préparation selon les autorités militaires rwandaises. Les relations entre le Rwanda et le Burundi ne sont pas au beau fixe depuis le coup d'état manqué du 13 mai 2015. Le gouvernement burundais accuse le Rwanda d'abriter les rebelles qui veulent changer le régime de Bujumbura, une affirmation que le Rwanda a toujours démenti. Le Rwanda accuse quant à lui le Burundi d'abriter des miliciens FDLR, accusation que le Burundi a toujours réfutée. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, la lettre ouverte de 50 républicains contre Donald Trump continue de dominer l'actualité. Ses experts en sécurité nationale et en relations internationales estiment que le candidat républicain n'a pas les qualifications requises pour diriger les États-Unis. Timothée Donangmaï.
Aucun d'entre nous ne votera pour Donald Trump, martèlent les 50 républicains dans leur lettre publiée lundi par le New York Times. Ancien responsable de la Maison-Blanche, du département d'État et des agences américaines de renseignement, ils ont travaillé sous les présidents républicains allant de Richard Nixon à George W. Bush. Parmi eux, Michael Hayden, un ancien directeur de la CIA, Michael Chertoff et Tom Ridge, tous deux anciens directeurs de la sécurité intérieure, ainsi que l'ancienne représentante américaine pour le commerce Carla Hills. On compte aussi plusieurs anciens secrétaires d'État adjoints. Leur lettre, la plus virulente à ce jour de républicains contre le candidat de leur propre parti, soutient que Donald Trump serait, et je cite, « le président le plus dangereux de l'histoire américaine ». Il n'a pas la personnalité, les valeurs ou l'expérience pour être président, ont-ils écrit dans leur lettre. Les 50 républicains estiment que l'élection de Trump affaiblirait l'autorité morale des États-Unis dans le monde. Ces anciens responsables républicains accusent Trump non seulement d'afficher une inquiétante ignorance de la politique internationale contemporaine, mais d'être peu disposé à s'informer à ce sujet. Pour les 50 républicains, ce sont là de dangereuses qualités pour un individu qui aspire à être le chef suprême des armées en charge de l'arsenal nucléaire américain.
Et comme à son habitude, Donald Trump n'a pas mâché ses mots dans sa réplique à ses frères ennemis.
Et donc, Gaby, ces gens font partie de l'élite défaillante de Washington qui, avec Hillary Clinton, a pris les désastreuses décisions d'envahir l'Irak, de laisser des Américains mourir à Benghazi et qui a permis l'émergence du groupe État islamique, a déclaré le candidat républicain. Ce dernier s'est concentré lundi sur son programme économique qui prévoit notamment d'importantes réductions d'impôts pour les individus et les compagnies. La sortie des 50 républicains contre Trump s'ajoute à une suite de mauvaises nouvelles pour le candidat républicain. Un sondage national hebdomadaire de NBC News SurveyMonkey révèle que le démocrate et la démocrate Hillary Clinton mène par 51% contre 41% à Trump. À noter également qu'un ancien responsable de la CIA, Evan McMullen, a annoncé hier son intention de briguer la Maison-Blanche, question, a-t-il dit, de proposer une option conservatrice aux Américains.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Georges-Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde, présentation Morgane Guerriec et Chérubin Gaby d'Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. On maintient la conversation sur Facebook. Visitez notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.